Mais avant, je voudrais revenir au... Non, justement, et il y a autre chose, je me suis rendu compte que j'avais dit conneries. Oh là là, j'ai vu ça ce matin. Mais la modification des aires de Broca, il y avait deux choses, il y avait ça et autre chose. La modification des aires de Broca, vous l'avez, on l'a vu hier, hein. C'est à la page 40, cortex somatosensoriel. Je vous avais dit que c'était le 5, je pense. Et en fait, c'est 1, 2, 3. Mais à la page 40, vous avez la correspondance. C'est mis. Voilà. Mais ce qui serait superbe, je ne sais pas où... Ah, peut-être chez... Dans ce bouquin-ci, je vois si on trouve les aires de Broca, parce que à ce moment-là, c'est le plus facile... Il y en a que je connais, des aires de Broca, et puis d'autres que j'ai oubliées. Aires de Brockman, oui, pas de Broca. Je raconte des bêtises.
Ah, oui.
Broca, c'est une des aires de Brockman, la 44. Vous les avez là? Ben voilà, c'est ça que je cherchais. Mais non, tout n'y est pas. C'est seulement le cortex préfrontal. Voilà, ici, je les ai. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, chaque partie du cerveau est divisée. Alors, que c'est ça. L'aire somatosensorielle, c'est 3 en haut, 2, 1 plus bas. Ça va? L'aire motrice, c'est la 4. Prémotrice, c'est la 6. Et une partie ici antérieure, je crois que c'est l'aire visuelle motrice, c'est la 8.
Non,
c'est et l'air motrice supplémentaire, c'est la 8.
On les a pas.
Vous les avez?
Mais
oui, c'est ça, c'est les numéros qui
manquent. Ils sont dessus.
Voilà, moi je cherche ça partout et c'est dans le bouquin. Mais voilà. Voilà, donc ça c'était une chose que je voulais corriger. J'avais dit que c'était l'air 5, je crois, et c'est R1, 2, 3. Donc, c'est quelle page tu disais ?
66.
Oui, voilà. Ok. Bien, mais ici je voudrais maintenant. Mais il y avait autre chose sur quoi je m'étais trompée hier. Hier matin, on a vu. C'était quoi hier matin?
Les ganglions de la base.
Les ganglions de la base.
Ah oui, c'est juste.
Je ne crois pas que c'était dans les ganglions de la base. Et les potes à la muse. J'y reviendrai, mais je sais que j'ai aussi fait une erreur d'un truc, mais j'y reviendrai quand j'en ai retrouvé ce que c'est. Bien. Dans le système limbique, vous vous souvenez hier, je vous ai dit qu'on avait des parties qui sont des parties des noyaux, comme on a vu hier, les ganglions de la base. On verra cet après-midi l'amygdale, qui est située ici. Et puis, on a des parties qui sont corticales. Ce dont on va parler maintenant, c'est une partie corticale. Et la partie corticale dont on va parler maintenant, vous voyez ici, c'est l'hippocampe. Et vous voyez que vous avez d'autres parties. Donc l'hippocampe est là. Vous avez un gyrus qu'on appelle ici, qui est le gyrus dentatus, le gyrus dentelé. Et vous avez ici une autre partie qui est le gyrus parahippocampique. Ça va ? Et tout cela arrive ici au bout, près de l'amygdale. Et vous avez tout au bout aussi une autre partie qui s'appelle incus. Et donc, vous voyez tout ça, ça se trouve en fait dans le lobe temporal et dans son côté interne. Parce que ceci, c'est une coupe quasi médiane. Et donc, si je vous montre ça sur le cerveau, si vous voyez le cerveau de côté, vous avez le lobe temporal ici. Vous vous souvenez qu'il est capable de se... qu'il est détaché. Si je vais à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Mais je ne vois toujours pas l'hippocampe. Parce que l'hippocampe, il est tout à fait en dedans. Donc, pour pouvoir voir l'hippocampe, je dois prendre mon lobe temporal, ici, et je dois l'écarter pour mettre en évidence l'hippocampe. Ça va ? Et c'est ce qu'ils ont fait sur le dessin. Donc ça se trouve vraiment en dedans du lobe temporal, mais vraiment à l'intérieur, là. Et donc si je détache pour vous le montrer, vous allez voir ici l'hippocampe, le gyrus dentelé et ici le gyrus parahippocampique. Ça va ? Donc, voilà. Tout ce qui est en jaune, le plus en dedans, c'est l'hippocampe, etc. Ça va ?
C'est quoi le gyrus parahippocampique ?
Il est là. C'est une autre...
C'est ce truc-là ?
Oui. Okay. Donc voilà, ça c'est l'hippocampe qui est plus en dedans. Donc ça c'est le côté externe de mon cerveau. Ça va, le haut temporal. La partie interne, je ne vois pas. Mais si je vais à l'intérieur, dans quasiment le centre du lobe temporal, je trouve l'hippocampe. Ça va ? Donc extérieur du lobe temporal, intérieur, je dois vraiment aller là pour le voir.
Et encore, l'hippocampe extérieur, il y a dans l'intérieur, je trouve le cortex, ça peut être
dans le... Ah, c'est le cortex ?
C'est le cortex.
Temporal, il y a plein d'autres choses.
Des noyaux encore ?
Ben oui, plein. Ça, c'est le cortex. Voilà, je sais ce que je vous ai dit comme erreur. Je vous ai dit que le paléocortex était à 4 couches cellulaires, c'est à 3.
Ah.
Voilà, ça, c'est l'erreur. Merde, j'ai dit 4 couches cellulaires. Voilà, donc ici, l'ordre temporal externe, l'ordre temporal interne. Et si je veux vraiment voir l'hippocampe, je dois aller voir devant, là. Ça va ? Et en fait, donc sur ce dessin-ci, ce qu'on a fait, c'est que ce lobe temporal, on l'a tiré pour vous montrer tout ça. Sinon, je ne verrais que le gyrus parahippocampique. Ça, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'il n'y a pas d'autre image. On y reviendra tout à l'heure. Alors, dans le livre, l'hippocampe se trouve à partir de la page 53. Mais je vais d'abord vous parler un peu de la mémoire. Alors, peut-être que ce que je vais vous dire n'est pas tout à fait la même chose que ce que Clotilde vous a dit, ni que ce qui est dans le bouquin. Enfin, je vais vous relever les différences, mais au niveau de la mémoire, moi je trouve que c'est tellement pas clair entre les auteurs. Comment elle a fait ça, petite? Ça y est, je suis perdue déjà dans ses mains. Explicite, voilà. Ok. Alors, on pourrait dire qu'on a trois types de mémoire, en gros. Au niveau fonctionnel, on a la mémoire procédurale, qu'on a vue, hein, qui se passe dans les ganglions de la base. On a la mémoire des faits, déclarative, elle s'appelle. C'est la mémoire qu'on utilise dans l'apprentissage. Et on a la mémoire émotionnelle. On parle aussi de différents types de mémoire en parlant de la mémoire immédiate. Je dois retenir un numéro de téléphone pour le taper dans 3 minutes. Des classifications de mémoire, je vous rassure. Vous en avez des centaines différentes. C'est vraiment compliqué. Donc là, je vous dis différentes choses. Là, j'ai parlé fonctionnel. Maintenant, au niveau des types de mémoire, il y a ce qu'on appelle la mémoire immédiate. Retenir un numéro de téléphone. Il y a la mémoire à court terme. Et puis, il y a la mémoire à long terme.
À court terme, ce serait quelques jours ou...
Eh bien, voilà. Dans votre cours... La mémoire à court terme peut durer quelques heures à quelques jours ou semaines. Et à moins que ces informations ne soient consciemment renforcées, répétées, comme quand on est en train d'étudier un examen et on revoit et on revoit et on... ça ne va pas être stocké. Ça, c'est ce qu'ils mettent dans votre cours. Dans d'autres, ils disent la mémoire immédiate et la mémoire à court terme, c'est pareil. C'est du kif-kif bourricot. La mémoire court terme, c'est la mémoire de quelques minutes. Mais bon. Voilà. Tiens, à ce sujet, je vais vous mettre au tableau un site sur lequel j'ai trouvé des choses très intéressantes qui disent pas la même chose que dans votre cours, mais c'est quand même vachement intéressant tout ce qu'ils disent sur la mémoire. C'est un truc d'Alzheimer. Alzheimer-Montpellier.org/mémoire. Et ça, c'est un document d'une dizaine, 10-12 pages sur comprendre la mémoire, dans lequel il y a vraiment des informations intéressantes. Ça va ? Bien. Donc, on parle de mémoire immédiate, mémoire court terme, mémoire long terme. La mémoire long terme, elle est stockée. Ok. Alors, la différence entre la mémoire court terme ou immédiate et la mémoire long terme, c'est que la mémoire long terme a été vraiment inscrite. Et comment s'inscrit la mémoire dans le cerveau ? La mémoire, en fait, c'est une association de neurones. J'ai un neurone, un autre neurone, neurone, qui ne sont pas nécessairement localisés au même endroit dans le cerveau, on va le voir. Et au fur et à mesure que je charge les informations dans la mémoire, il y a des connexions entre les neurones qui se font, et de plus en plus... de connexion. Ça va ? Et à un moment donné, où les connexions entre les neurones, au niveau des synapses, changent. La synapse devient comme figée, fixée. Et à ce moment-là, c'est enregistré. Ça va ? Bien. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si un neurone, plouf, ce neurone-ci est activé, tous les autres neurones du système vont être activés. Et c'est comme ça que vous sentiez une rose, que vous touchiez une rose, que vous voyez une rose, vous savez que c'est une rose. Parce que si je touche des épines, pouf, je peux sentir l'odeur et voir l'image. Si je sens la rose, immédiatement je vois sa tige avec les épines et je peux voir l'image. Si je regarde une rose, je peux voir, me souvenir qu'il y a des épines, etc. Et tout ça, c'est stocké à différents endroits. Par exemple, l'image de la rose est stockée dans les lobes visuels. Le toucher épine de la rose va être localisé dans les zones tactiles. L'odeur de la rose va être localisée dans les zones odorales. Ça va ? Et ce qui se passe, c'est que j'accède à la rose par un côté, par l'autre ou par le troisième. Automatiquement, tous vont être rappelés en même temps. Ça va ? Ça, c'est comment la mémoire va entrer en circuit. En circuit vraiment dans le cerveau. Mais au début, on doit créer ce lien. Et ça, c'est mémoriser. Ça, c'est le stockage de la mémoire. Il y a une grande loi en neurosciences qui dit qu'en anglais, on dit « cells which fire together, wires together ». Et ça, ça veut dire les cellules qui envoient des impulsions ensemble, sont liés ensemble. Ça va ? Et c'est ça la mémoire. C'est si quand je vois une rose, que je touche la rose, que je sens la rose, toutes ces différentes voies cérébrales sont actives en même temps, elles vont, si je le répète, se lier. Et à ce moment-là, ça va se stocker dans ma mémoire. Et c'est la raison pour laquelle dans l'apprentissage, souvent on vous dit de chercher, non pas juste à apprendre dans le bleu un truc, mais de faire des liens. Moi je fais ça énormément quand je dois mémoriser quelque chose, que ce soit apprendre un nouveau mot dans une autre langue ou des choses comme ça, je fais des liens avec des choses déjà connues. Donc on crée, par exemple je veux apprendre le nom d'une nouvelle marque de voiture, mais je vais aller stocker cette nouvelle marque de voiture avec toutes les autres marques que je connais déjà. C'est plus facile que de la classer à un endroit dans un tiroir où il n'y a aucune voiture.
Ça, c'est inconscient.
C'est inconscient, bien sûr. Mais dans l'apprentissage, si tu n'apprends que les choses visuelles sans impliquer l'auditif, sans impliquer le tactile, sans impliquer, c'est beaucoup plus difficile que si tu impliques plein de sons. Oui ?
Moi, je voulais savoir quand on fait un lien justement entre un truc mnémotechnique, quoi, entre une voiture X et une voiture Y, c'est ça, c'est le lien alors qu'il se crée au niveau des neurones. C'est cette pensée-là qui crée le lien au niveau neuronal.
Il y a deux choses. C'est que pour enregistrer, j'ai besoin, pour enregistrer facilement, de toucher plusieurs aspects d'un truc. Une fois que quelque chose est enregistré, clairement, une polo, c'est clair dans ma tête ce que c'est maintenant, j'en ai une. Ok ? Si je dois stocker une autre voiture que je ne connais pas, je ne vais pas aller la stocker n'importe où, je vais déjà la stocker avec la polo que je connais, puisque c'est déjà la même chose, il y a quatre roues, il y a une carrosserie, etc. C'est la même chose.
Je ne peux plus que retenir la différence.
Donc, je vais aller la stocker au même endroit. Mon ancienne voiture qui va partir à la casse, c'est une Mitsubishi. La nouvelle, c'est une Polo. C'est stocké au même endroit. Parce qu'il y a quatre roues aux deux. Il y a un coffre aux deux, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que je peux raccrocher des choses. D'accord ? Mais maintenant, tu me demandes aujourd'hui la différence entre une Polo et une Golf.
C'est pas une Golf. J'ai fait une belle Golf.
C'est une Polo. Mais la Polo, la nouvelle Polo et la Golf sont très proches.
Oui.
Tu me dis, je ne sais pas, je ne vois pas. il y a un moment donné où je vais peut-être, parce que j'ai une polo, faire attention à ça et me dire, tiens, la Golf est plus grosse, évidemment, elle coûte plus cher. Évidemment, ça, je le sais. Mais quand j'en vois, comment savoir quelle est quoi, mais je vais faire attention à des petits trucs qui vont venir s'accrocher dans la zone voiture. Et à un moment donné, je pourrais facilement faire la différence.
Ce sont des liens entre les deux.
Mais par exemple, il y a un mot en espagnol que j'ai des difficultés à apprendre. Maintenant, je l'ai. C'est carotte. Zanahoria. Je trouve que c'est un mot extrêmement compliqué.
Comment?
Zanahoria. Voilà. Et pour retenir ce mot, mais il a fallu que Pat s'amuse en dansant autour de moi en faisant zanahoria dans tous les sens pour que ça rentre. Alors là, il n'a pas utilisé de connexion avec d'autres choses, mais il a utilisé un aspect émotionnel amusant pour m'aider à le retenir. Donc il y a plein de choses qui vont faire que je vais stocker. Quand Xavier était en train d'apprendre, je ne sais plus si c'était ses mots de vocabulaire latin ou... Non, du flamand. Il devait savoir tout, des trucs sur divorcer, séparer, machin, truc. Bon, j'ai oublié. Mais j'ai fait ça. On a utilisé plein de trucs. C'est-à-dire que je lui ai fait des liens. Il y avait des mots qui se ressemblaient, mais qui voulaient dire des choses différentes, par exemple. Alors, des mots qui se ressemblent peuvent être stockés ensemble. Mais ils ont un sens différent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque truc, j'avais une image. Donc, d'un côté l'image, de l'autre côté le mot, par exemple. Mm-hmm. Tu vois? Et donc, on fait un lien mot-image. Alors, le mot est pareil, mais l'image est différente. Et donc, tu as l'audition, etc., etc. Et puis, on a joué, et puis on a mis l'humour dedans. Et tout ça fait qu'on retient. Mais si je retiens juste le mot, ben, non, rien, ok. 10 jours après, je oui, je sais plus ce que c'est, etc., etc. Et donc, le fait de lier aussi bien émotionnellement que avec des choses déjà connues, en impliquant tous les sens, permet à la mémoire, permet de faire des liens. Parce que si c'est juste la gloria, ok, ben c'est quelque part dans mon truc auditif, là où je stocke mes autres mots espagnols, mais pas de lien. Quoi. Mais maintenant, quand je le prononce, je vois une carotte. Ah, peut-être à cause de Patrick qui était en train de danser avec sa carotte autour de moi et en chantant ce mot. Je ne sais pas. Mais ça fait 15 ans ou 20 ans que je parle espagnol, 20 ans que je ne retiens pas ce mot. Et puis là, je l'ai. Juste pour un... Voilà, quoi. Par exemple, tu vois, eh bien, lui, il a fait des liens par rapport à la vision de la carotte, la prononciation, etc. Ça va ?
Mais il y a une question de répétition aussi.
Bien sûr. Bien sûr, répéter, c'est en fait faire que. C'est faire que je, ces liens, à un moment donné, je les fixe dans cette mémoire.
Quand tu dis par exemple ta polo, tu la mets à côté de ta Mitsubishi, tu pourrais la mettre à plusieurs endroits. Enfin, tu vois.
Mais par exemple, la polo, elle est peut-être aussi stockée. Les vélos, les motos sont stockés aussi là. Mais je vois bien qu'il y a une différence parce qu'il y a un truc qui a 2 roues, à l'autre il y a 4 roues. Et puis il y en a qui a un moteur, qui n'a pas de moteur, etc. Donc tu stockes au même endroit, mais avec des différences, quoi. Et donc tu rassembles, mais tu sépares aussi. Et il y a toujours cette comparaison. Les fleurs, toutes les fleurs vont être au même endroit. Mais il y en a à épines, sans épines. Il y en a qui sentent bon, il y en a qui sentent mauvais, etc. Mmh. Il y en a des grandes, des petites. Plein de pétales, peu de pétales. Tu vois, tout ça. Et c'est toujours stocké comme ça. Et c'est vraiment la répétition de la répétition qui va créer ce lien fort et qui va faire qu'à un moment donné, pouf, c'est inscrit. C'est fixé. Et cette fixation, Alfred nous disait, la connexion synaptique se fait progressivement, et progressivement la réponse vient plus vite, parce que 2 fois 2 égale 4, on ne doit même plus réfléchir, c'est enregistré. 6 fois 7, 42, 7 fois 7, 49, etc. C'est devenu automatique parce que c'est fixé la synapse. D'accord ? Et quand la synapse est fixée, vous avez un changement de structure de la synapse. Et ça, c'est la mémoire à long terme. Tant que la synapse n'a pas changé de structure, je crée des neurones, des liens entre les neurones, je classe les choses, et ça, c'est bien. Mais c'est fixé dans le long terme quand c'est fixé au niveau de la synapse, cimentée. Et donc, quand j'ai des problèmes de mémoire, je peux avoir des problèmes pour aller stocker la chose, ou je peux avoir des problèmes pour récupérer ce que j'ai stocké. Dans les deux sens. Mais maintenant, me souvenir, comme je vous disais pour la rose tout à l'heure, me souvenir de quelque chose, ça peut passer par plein de sens différents. Ça peut rentrer par plein de portes différentes. Ça va ? Je vois un lieu que j'ai connu, eh bien, je peux entendre la musique, voir les personnes qui étaient avec moi, sentir les odeurs du bouquet de fleurs que j'ai reçu, etc. Tout peut être là. Juste par un. Donc, les portes d'entrée sont multiples dans la mémoire.
J'ai une question, si je peux.
Oui.
La mémoire à long terme, c'est quand
quand c'est fixé.
Quand c'est fixé, la structure de la synapse change.
Oui.
Par exemple, la vieillesse, est-ce qu'on fait rappeler la mémoire, la structure-là, elle rechange de nouveau?
Non.
C'est autre chose?
Non, en fait, c'est la récupération, probablement.
Parce qu'une fois que
c'est inscrit. C'est inscrit, mais tu dois pouvoir la récupérer.
Oui.
Tu vois?
Oui.
Une fois que c'est inscrit, mais si je ne peux pas la récupérer, c'est foutu. Ouais.
Et moi, une autre question, on a tout comme ça, maximum.
Non. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que, on ne le dit pas ici, mais on le dit en livre, c'est que il y a cette mémoire émotionnelle liée à l'amygdale qu'on verra cet après-midi, qui est liée à notre survie. Et puis, il y a cette mémoire des faits, des événements, etc., qui peut remonter comme ça. Ça, c'est une chose. Je sens une rose, pouf, toute une salle me revient à la tête, par exemple. Mais pour aller rechercher des choses que j'ai stockées et les rechercher consciemment, là, parfois, ça, au cours du temps, si je n'utilise plus, ça va s'effacer. Ça va ? Ça, oui.
Ça fait et le chemin s'efface, dans l'info s'efface.
Probablement que aussi au niveau
de la structure.
Au niveau structure, si je n'utilise pas les neurones, si jamais je les utilise. Attendez, mais moi, l'histoire de France, l'histoire de Belgique, la biochimie, la physique, j'étais passionnée, quoi. J'étais même passionnée de physique et de maths. Mais à un point que j'ai failli faire ça au lieu de faire la médecine. Doctorat en physique et en maths. Vous me demandez n'importe quoi en physique ou en maths aujourd'hui, plus rien. Alors que ça me passionnait, quoi. Je faisais des maths comme mes fils pour m'amuser. Ils sont pareils. Plus rien aujourd'hui. Parce que je ne l'utilise pas. Donc, il y a ça aussi. Chaque fois, parce que ce n'est pas parce que j'ai quelque chose dans la mémoire long terme que je ne dois pas l'entretenir. Ça va ? Sinon, alors maintenant, parce que moi je suis relativement émotionnelle, vous me parlez mathématiques, vous me parlez dérivés, vous me parlez tout ça. Ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être revoir des cours de maths avec la tête du prof que j'adorais, Madame Boussiquet, et tout ça, oui, mais ce n'est pas pour ça que je vais me souvenir du détail du cours. Et donc, il y a tellement de choses différentes dans la mémoire. Ça va ? Bien, on revient un peu... Alors, on parle parfois de mémoire déclarative. Ça, c'est cette mémoire de l'apprentissage. Déclarative, c'est quelque chose dont je peux parler, que je peux rappeler consciemment. Et la mémoire déclarative, elle est associée, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Elle peut être de deux types. Mais ces deux types sont liés dans tout ce qu'on vient de dire maintenant, ils sont vraiment liés. C'est la mémoire qu'on appelle déclarative sémantique,
Mais ce sont tous les mots, zanahoria, tous les concepts, tout ce que j'appelle apprendre à l'école avec toute l'histoire, les dates, les idées. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Et c'est conscient. Et à côté de ça, il y a la mémoire déclarative épisodique. Et la mémoire déclarative épisodique, c'est la mémoire des épisodes de ma vie. Qu'est-ce que j'ai vécu, les événements, mes événements biographiques.
Ça aussi, c'est possible.
Ben, je peux ramener ça à la conscience. C'est stocké, je peux le ramener à la conscience. Mais la mémoire déclarative, elle n'est pas indispensable à ma survie. Donc, si je ne l'utilise pas, ça s'efface. Ça va ? Bien. Alors, on va préciser ces deux mémoires. La mémoire donc sémantique, déclarative sémantique, qu'on appelle parfois aussi mémoire encyclopédique. Ben, donc c'est la mémoire du sens des définitions, des faits qui se sont passés, cours d'histoire, etc.
C'est la sémantique.
Oui, oui. Et ça, c'est stocké en général, beaucoup est stocké dans le lobe temporal. Et le contenu va être chaque fois stocké au même endroit. Par exemple, tous les animaux vont être stockés au même endroit, tous les visages, toutes les plantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand on a une lésion du lobe temporal, par exemple du lobe temporal droit, les visages, si c'est dans la zone des visages, même des visages que je connais super bien, me disent plus rien. Si la lésion est dans le lobe temporal gauche, là où je stocke les noms de visage, je peux reconnaître le visage, mais plus savoir le nom de la personne. Ou par exemple, je peux reconnaître un marteau, mais plus savoir que ça s'appelle un marteau, si c'est dans la zone des outils. Et la zone des outils, c'est ça qui est impressionnant dans le cerveau. Un outil, ça sert à quoi ? À être utilisé. Donc je fais une action avec un outil. Eh ben, la zone des outils dans le lobe temporal va être stockée près du lobe, de la zone motrice. Donc, les choses sont vraiment impressionnantes.
C'est bizarre parce que ça me fait penser à ce qu'on avait vu dans la partie motrice, quelqu'un part aussi, qui a cette espèce de...
connexion.
Oui.
Ah, mais il y a tout le temps des connexions. Partout, il y a des connexions. Parce que je vous dis ici que les visages et tout sont stockés là, dans le temporel, c'est vrai,
ailleurs,
mais si j'entends la voix de la personne, ça c'est au niveau auditif. Si je me rappelle par exemple d'une tache de rousseur sur le visage de cette personne, c'est peut-être au niveau visuel, etc. Ou de l'odeur de cette personne qui sentait bon, qui sentait mauvais, etc. etc. Donc, c'est stocké partout. Mais le lobe temporel est... Dans le lobe temporal, il y a quoi ? L'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle énorme dans stocker la mémoire et récupérer la mémoire.
La mémoire déclarative épisodique, on le sait ? Tu vas en parler ?
J'en parle maintenant.
Ah,
dans la mémoire épisodique, il y a plein de faits sensoriels qui sont impliqués. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la vision, l'audition, etc. Ça, je reprends l'exemple du marteau. Il y a le marteau. Marteau. Ça s'appelle un marteau. Je vois que c'est un marteau. Ça, c'est stocké dans le lobe temporal. D'un côté, le nom. De l'autre côté, la reconnaissance de l'objet. Tout ce que moi, j'ai fait avec un marteau, je me suis tapé sur le doigt, aïe, j'ai vu quelqu'un, j'ai tapé quelqu'un, quelqu'un m'a tapé, n'importe quoi. Ça, c'est la mémoire des épisodes. Ça va? Mais les deux sont liés.
Et la fonction du marteau qui sert à taper?
Ça, c'est au niveau moteur, probablement. Et, la, et c'est dans la mémoire.
C'est la définition, c'est de l'encyclopédie, quoi.
Oui. Mais c'est aussi lié au moteur, puisque c'est avec le moteur que j'utilise le marteau. Et la mémoire de l'utilisation du marteau, et c'est comme ça que je fais, c'est où? Dans les ganglions de la base. Mémoire procédurale. Ça va? Mais donc, quand je vois cette mémoire déclarative des épisodes et sémantiques, mais les deux sont sans arrêt liés. Parce que je vois un marteau, je ne veux pas juste voir un marteau. Ah oui. Si avec le marteau, j'ai plein d'épisodes de ma vie qui sont liés, pouf, ils vont être là aussi. Si un marteau, ben pour moi, c'est juste un outil, je n'ai pas d'émotion particulière liée au marteau, ben ce sera juste un outil. Ça va?
La mémoire de ce que tu as fait avec, enfin de ce qu'on fait avec un marteau, c'est te parler des ganglions de la base, sur comment le faire. Et il y a une composante émotionnelle aussi qui a lieu. Excuse-moi, j'ai raté.
J'ai la mémoire déclarative. La mémoire déclarative, tu en as de deux sortes. Tu as la mémoire des épisodes de ma vie. Ça, c'est tous mes sens.
Qui est situé?
Dans l'hippocampe. Et puis, et dans l'hippocampe, l'hippocampe est utilisé, mais ça va aussi vers toutes les aires sensorielles, corticales. Et puis, il y a la mémoire sémantique. Et ça, c'est dans le lobe temporal, et dans, c'est-à-dire, entre autres, l'hippocampe. Ça va? À côté de ça, j'ai la mémoire procédurale, qui, elle, n'est pas du tout consciente. Ça, c'est conscient, hein. Ça remonte à la conscience. Mais le comment, ça c'est le quoi. C'est quoi un marteau et c'est quoi que j'ai vécu avec un marteau.
Okay. C'est quoi la mémoire procédurale?
Quoi?
C'est...
Ça c'est la mémoire du quoi. À quoi ça sert, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Alors que la mémoire...
Mais dans les ganglions de la base, ça
s'appelle la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, ça c'est une mémoire non déclarative. Je ne vais pas ramener à la conscience l'acte de frapper un marteau. Déclaratif. Je vais le faire.
Déclaratif, ça veut dire qu'on ramène à la conscience?
Un rappel conscient. Alors qu'ici, c'est la mémoire procédurale, c'est un rappel non conscient de la manière de faire, de la performance.
Mais en fait, tu pourrais... Donc, la mémoire procédurale qui est non déclarative, donc non consciente...
Oui.
Tu, forcément, si maintenant, moi je vois un marteau... Je sais comment le faire.
Tu le
sais. Je le ferai.
Tu le sais, mais c'est, tu ne vas pas consciemment dire, voilà, je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça.
Mais par contre, le fait de me voir le faire, ça, pouf, je retombe dans le truc épisode. Ou...
Si tu te souviens d'une fois où tu as utilisé un marteau qui t'a fait rigoler comme une basse...
Mais non, mais même, si tu me demandes comment utiliser un marteau, je sais qu'il faut faire ça.
Donc ça, c'est procédural.
Oui, mais pourtant, même...
Mais
c'est ça, le fait d'expliquer comment faire. Donc
c'est pas
comment
conscient,
la
tu ne peux pas. Tu as stocké une procédure.
Ouais.
Mais la procédure n'est pas consciente. Tu vois l'efficacité parce que tu es performante ou non.
Ouais. Mais le fait de le savoir, ça devient sémantique.
Ah oui, mais en fait, quand on parle de procédure, c'est plus mécanique.
Oui. C'est la mécanique. C'est,
mais le fait de me rappeler
que la description
que
de la
je
mécanique,
sais,
c'est,
la description de la mécanique.
C'est
ok. Parfois, la déclarative, on parle aussi de l'explicite. Parce que je peux en parler. Je peux parler d'un marteau. Je peux dire, voilà ce marteau, il a cette forme-là, etc., etc. Il sert à ça, etc. Ça va ? Je peux expliquer des épisodes de ma vie. Quand j'étais avec François, on a tapé un clou dans un mur et ça a fait casser tout le mur, par exemple. Je peux en parler, parce que c'était du papier carton, ce mur. Ça va ? Ça, je peux en parler. Mais la procédure, c'est inscrit. Je prends le marteau, je frappe, je ne dis pas, je prends le marteau, je serre mon index et mon majeur et mon moyen. Et... Non, ça se fait. Ça s'appelle aussi implicite. Et il y a une autre mémoire implicite qui sont, ici, ils parlent de conditionnement émotionnel. Et ça, on verra cet après-midi avec l'amygdale. C'est tout mon vécu. Je ne peux pas en parler, mais tout d'un coup, pouf, j'ai une émotion qui revient. Rouler à vélo, je le fais sans y penser. Avoir une émotion de peur qui revient face à quelqu'un, c'est sans y penser. Et je ne peux pas en parler. Je ne peux pas expliquer. C'est implicite. C'est là. Pouf. C'est non conscient. Tout ça, ce sont des mémoires à long terme. Hein. C'est stocké déjà. Et ça... Surtout ceci, cette mémoire dont on parlera plus cet après-midi au niveau de l'amygdale, cette mémoire-là, elle reste. S'il y a danger et que j'ai peur, c'est important que je continue à avoir peur parce que ça me permet de repérer le danger. Donc ça, c'est fixé. Ça ne s'éteint pas. Ça peut s'éteindre.
Mais Dominique,
c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Mais tant que je ne touche à rien, je vois, j'ai peur. Ça va ? Puis, laissez-moi un peu repérer dans mes notes, parce que là, je pars dans tous les sens. Ça, j'ai dit. Alors, oui, où ça se trouve ? Donc, ça, c'est l'hippocampe et les aires corticales. Ça, c'est le lobe temporal, l'hippocampe. Ici, ce sont les ganglions de la base. Et ici, c'est l'amygdale. On verra ça tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'il y a là, du sang, alors hein? Bien. Donc, on vient de parler assez à fond de ceci. Je viens maintenant dans la mémoire implicite. L'implicite, c'est vraiment, je fais les choses, je récupère les choses sans en avoir conscience. Une émotion, je vous l'ai dit, ou une manière de faire. Je prends ma voiture, je démarre, je prends mon vélo, je roule, je prends le marteau, je tape. Tout ça, bien sûr, je donne l'ordre de taper. Ça, c'est conscient. Mais la manière de faire, pas. Et ce qui est impressionnant, c'est que j'ai, au niveau de la mémoire implicite, plein d'informations dont je n'ai absolument pas conscience. Vous jouez au jeu des millionnaires. Vous ne connaissez pas la réponse. Vous avez deux, ou je ne sais pas combien de possibilités, deux réponses possibles maintenant. Ce n'est pas la mémoire explicite qui va pouvoir vous donner la réponse parce que vous ne vous en souvenez plus. Ça va ? Mais par contre... Souvent, on fait le bon choix sans le savoir, parce qu'on sent quelque chose. Il y a quelque chose de non conscient qui nous dit « j'irai plutôt vers là ou vers là ». Et si on rate, souvent c'est, je reviens à mon truc d'hier, l'inversion psychologique. C'est ça qui fait la différence entre la médaille d'or et la médaille d'argent, hein, très souvent. Par exemple. Alors, pour vous donner une idée, c'est un gars, un cas qui est super connu dans la littérature des neurosciences, on l'appelle HM. Et HM, il faisait des crises d'épilepsie. Or, les crises d'épilepsie, en général, on vous en a parlé, Connu quoi. Les crises d'épilepsie, en général, c'est le lobe temporal. Donc, à une époque, pour les épileptiques, ce qu'on faisait, c'est qu'on détruisait, d'une certaine manière, les lobes temporaux. Mais ce n'est pas tous les lobes temporaux, mais justement les lobes temporaux internes. Parce que c'est de là, souvent, que part la crise d'épilepsie. Et donc, on a opéré, on a détruit ou enlevé les deux lobes temporaux internes chez HL. Il n'a plus pu stocker de nouveaux faits. Ça veut dire qu'il n'a plus ni mémoire épisodique, ni mémoire sémantique. Par contre, il a pu apprendre à jouer au tennis. Mémoire procédurale. Et vous pouviez lui donner tous les jours le même journal, et il lisait tous les jours le même journal. Et waouh, intéressant! 15 ans après, toujours le même journal. Waouh, ça va? Il ne stockait plus rien.
Ok. Et je ne sais plus pourquoi je pense à ça, mais en stress release, tu sais quand on tapote comme ça autour de l'oreille?
Oui, le tapotement temporel.
Ça a à voir avec cette mémoire ou rien à voir? Ou je dis des bêtises?
Je crois pas, mais j'ai jamais réfléchi, mais je crois pas. Je sais pas, je peux pas le dire. Mais c'est le lobe temporel, il est là. Hein, donc. Mmh. Mais non, je ne peux pas le dire.
D'accord.
Bien. Dans la mémoire implicite, qu'est-ce que je dis là? Oui. Dont je ne suis pas conscient, l'hippocampe. Pas nécessairement pour la procédurale, mais l'hippocampe est aussi actif. Et on le verra parce qu'il y a des liens directs amygdale-hippocampe. Bien. Donc, en gros, au niveau de la mémoire à long terme, on doit encoder les choses, et ça, c'est en faisant des associations d'idées, des associations d'images, d'informations, en y revenant, en utilisant tous les sens. Puis, on a encodé, on doit maintenant stocker, et pour stocker, c'est la répétition, ça s'appelle la consolidation, et à ce moment-là, une fois que c'est stocké au niveau des synapses, les synapses sont comme cimentées. Et puis après, il y a la restitution, où je dois pouvoir ramener à la conscience ce qui a été encodé et stocké. Ça va? Et dans ces trois parties, l'hippocampe va jouer un rôle. Comme ils disent ici dans le bouquin, la mémoire explicite, le quoi, est flexible. La mémoire implicite, procédurale, est inflexible.
Mais le conditionnement émotionnel, il peut quand même le transformer.
Tu veux dire ça?
Oui.
Mais en travaillant dessus,
oui,
en kinésio,
oui.
Oui. Mais parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer des choses qui ont été fusionnées ensemble, des liens qui ont été fusionnés ensemble. Mm-hmm. Ça, on peut faire.
Mais elle ne sera pas effacée, mais là, elle sera traitée
autrement. Le lien va être différent. C'est-à-dire que si par exemple j'ai vécu un épisode qui était associé à un conditionnement émotionnel, Je peux peut-être séparer les deux, me souvenir de l'épisode sans que le conditionnement émotionnel de peur revienne. Mais pourquoi est-ce que j'ai été stocké, fait un lien entre tel épisode et telle émotion? Mais parce que cette émotion, les émotions amygdaliennes, elles sont inscrites en nous. C'est une question de survie. Ça ne change pas. La peur, la rage, on a tous ça. La rage de défendre sa vie, on a tous ça. Ce sont les deux émotions fondamentales. Et ça, c'est indispensable. Ça vient depuis les reptiles et même avant. C'est inscrit. Ça va? Maintenant, ce que moi je fais, c'est que je fais un lien entre l'épisode de ma vie et ça. Et c'est sur ça qu'on peut travailler. Ça va? Bien. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas. Je regarde encore juste ici. Oui, un autre schéma que je trouve sympa. Et que je vais aussi vous donner. Juste, qui n'est pas dans vos notes, hein. Et puis un troisième, ça c'est pas dans vos notes, mais je vais vous le donner parce que après vous pourrez peut-être choisir de l'utiliser à la fin du cours, comme on est sur la mémoire. Voilà, donc c'est hyper simple, hein, mais c'est pour vous résumer tout ce qu'on vient de dire. J'ai un stimulus, et le stimulus arrive à mes organes sensoriels. Et ça va aller dans la mémoire sensorielle. Qu'on peut dire immédiate. Et puis là, ça va ensuite passer dans la mémoire à court terme. Et de là, vers la mémoire à long terme. Et je parle de la mémoire déclarative. Et ça, la mémoire à court terme, mais je vais par répétition. Répétition. Faire tourner les choses dans la mémoire à court terme pour que ça vienne aller dans la mémoire à long terme. Et puis, je dois pouvoir récupérer de la mémoire long terme à la mémoire court terme. Donc dans les trois termes dont je vous parlais tout à l'heure, où vous aviez, je reprends ceux que je vous avais donnés, vous avez dit je dois pouvoir encoder, stocker, récupérer. Donc encoder, ce serait ici. Par répétition, j'arrive à encoder, je stocke ici et je récupère. Alors, il y a une mémoire dont je ne vous ai pas parlé parce qu'on n'en parle absolument pas dans ce cours-ci, mais je vais quand même vous placer. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est aussi un autre type de mémoire à court terme, mais c'est situé tout à fait dans les lobes frontaux ici. Et je vais vous donner un exemple. Donc ici, on appelle aussi la mémoire de travail. Un exemple, c'est, je vous dis, 5, 3, 2, 7, 8. 5, 3, 2, 7, 8. 5, 3, 2, 7, 8. Ça, c'est soit de la mémoire immédiate, soit même la mémoire à court terme. Si vous devez retenir ça pour aller téléphoner dans 10 minutes, vous n'avez pas de quoi noter, vous allez répéter plusieurs fois 5, 3, 2, 7, 8. 5, 3, 2, 7, 8. Ça va ? 5, 3, 2, 7, 8. Ok ? Ça, c'est la mémoire à court terme. Je l'entretiens le temps que j'en ai besoin, hein, je répète. Puis quand j'en ai besoin, maintenant, si c'est le numéro de mon amoureux, alors là, il faut que je le retienne. Mais à ce moment-là, j'ai d'autres choses qui entrent en jeu, dont on parlera cet après-midi, qui est l'amygdale. Donc cette mémoire émotionnelle qui va rentrer en jeu aussi, liée au plaisir, on en parlera, qui va faire que je vais, c'est un tour de suite, il faut que je retienne. Ça va? Donc ce n'est pas juste un fait, on n'est plus au niveau juste du déclaratif. Bien. Alors, 5, 3, 2, 7, 8, maintenant je vais vous demander de me le répéter à l'envers. Oui. 8, 7, 2, 3, 5. Pour faire ça, c'est la mémoire de travail. Parce que là, vous avez quelque chose que vous avez déjà stocké, ou pas, que vous récupérez et que vous devez traiter. Ça, c'est la mémoire de travail.
Et ça, c'est donc dans
les lobes. Ça, la mémoire de travail, ce sont les lobes préfrontaux. Mais là, on n'en parle pas du tout.
Non.
Parce que c'est le cortex, voilà, on n'en parle pas du tout ici.
C'est récupérer et transformer.
Oui, c'est le travailler. Sur l'ordinateur, c'est ce que j'amène, c'est le document que j'amène, que je récupère à l'écran pour pouvoir travailler dedans et modifier. Ça va? Mais par exemple, quand on étudie, si je suis en train d'étudier mes verbes espagnols, le passé simple en espagnol, eh bien, ce que je fais, c'est que j'amène les trucs-là. Mais quoi j'amène? Mais par exemple, les terminaisons de la première, de la deuxième, de la troisième. Je les amène ici. Et puis, je dois construire un verbe. À partir de ce que je connais que j'ai amené ici, et du nom, de la traduction du verbe que j'ai amené ici, je vais mettre les deux ensemble. Oui, mais la mémoire de travail est aussi utilisée, est aussi une mémoire court terme qui permet éventuellement de stocker. Ça va? Mais quand je l'ai travaillé, pouf, de nouveau hippocampe et stockage.
Le nom dit bien ce qu'elle fait.
Elle nous permet de travailler. Je regarde si alors
est-ce que ça part toujours du sensoriel? Dans ce schéma, si oui, mais est-ce que c'est toujours comme ça?
Bah, et Bruxelles? Tu m'as téléphoné?
Ah non, j'ai pas entendu. J'ai peut-être plus de place sur mon monde.
Ça veut aussi dire que je t'ai téléphoné que. Oui, voilà. Bon, je vais vous donner un troisième. Donc, en fait, si on veut, en gros, l'hippocampe joue un rôle, on va arriver à l'hippocampe, mais joue un rôle dans beaucoup de tout ça, dans la mémoire déclaratif, dans la mémoire des épisodes, dans la mémoire sémantique, dans la mémoire explicite, l'hippocampe joue un grand rôle. Ça va? Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'hippocampe et puis je vous donnerai ce circuit de Pappé que vous trouvez certainement un peu partout. Vous avez vu ça, le circuit de Pappé en... Non? Ok. Bon, on y arrive à... Bien. Alors, donc, l'hippocampe va jouer, on vient d'en parler, un très grand rôle dans le stockage du souvenir. Il reçoit des informations qui viennent d'un peu partout, de tout le cortex, de tous les cortex, et qui renvoie des choses vers les différents cortex. On verra comment tout de suite, je vous donnerai après. Tout ça, je vous ai déjà dit. Des manières de l'hippocampe de stocker les informations, c'est entre autres pendant le sommeil REM, le sommeil des rêves. Et à ce moment-là, il consolide les choses par les rêves. Quand on regarde où se trouve l'hippocampe, dans le cerveau. En fait, il se trouve, vous avez le nez. Comment je pourrais... je vais vous le remontrer, peut-être ici, en vous montrant ça. Voilà. Là, vous allez voir. Vous voyez ici, en dessous, se trouve ce qu'on appelle, au niveau os, la lame criblée de l'ethmoïde. Et l'ethmoïde, c'est l'os qui se trouve en haut du nez, juste ici derrière. Ça va? Et juste au-dessus, vous avez le cerveau olfactif, qui est le bulbe olfactif. Eh bien, le bulbe olfactif et l'hippocampe sont directement en prolongement l'un de l'autre et sont directement liés. L'hippocampe, c'est comme une évolution du cerveau de l'odorat. Et donc, il y a une forte connexion entre ce que je sens et l'hippocampe. Et c'est ça qui nous permet tellement... bonne mémoire des mauvaises odeurs, parce que c'est une question de survie. Les odeurs vont directement dans le système limbique sans passer par le thalamus. Ils ont fait une expérience pour vous dire, je vous ai dit, l'hippocampe est fondamental dans le stockage des informations. Ils ont fait une expérience avec des taximènes à Londres. À Londres, c'est l'endroit le plus difficile pour être chauffeur de taxi. Et l'examen pour être chauffeur de taxi est extrêmement difficile à Londres. Et donc, il doit, pendant un an, il se prépare pour cet examen, parce qu'il doit savoir tous les sens uniques, les ceci, les cela. Et puis l'examen suivant, on leur dit, vous devez aller d'un point A à un point B, par où allez-vous? Et donc, on a fait... faire cet examen à certaines personnes, mais en faisant un scan en même temps, et on s'est rendu compte que la partie de l'hippocampe, la partie postérieure de l'hippocampe dans le cerveau droit c'est ce qui voit l'espace, hein, c'est le gestalt, était beaucoup, beaucoup plus développée chez les chauffeurs de taxi londoniens que chez n'importe qui d'autre. Donc, ils ont stocké dans l'hippocampe. Là, ils ont stocké quoi? La mémoire d'un déplacement. Donc, ce n'est pas des faits. Les faits, c'est plus à gauche, enfin, les faits, les objets. Mais la mémoire de lien entre des lieux, je dois passer par là-bas, c'est dans l'hippocampe droit. Et là, on s'est rendu compte que chez eux, il y avait vraiment une grosse différence. L'hippocampe est vraiment... très sensible au traumatisme, ça se trouve juste là, hein, c'est la tempe, et très sensible aux températures élevées. Et c'est de lui que partent donc les crises épileptiques, mais aussi les convulsions. Et un enfant qui fait des convulsions, c'est vraiment important d'abaisser la température pour protéger l'hippocampe, entre autres. L'hippocampe est très sensible aussi aux hallucinations, aux sensations de déjà-vu, ça vient de là, ces sensations, ces expériences de déjà-vu. Et on s'est rendu compte que si on stimulait l'hippocampe, ben, ça déclenchait ces sensations de déjà-vu, ça déclenchait des sensations d'illusion. Et ça, c'est quoi? C'est la mémoire épisodique. J'ai la mémoire d'avoir déjà été à cet endroit, alors que je n'y ai jamais été. Parce qu'il est sensible à aux illusions, quoi. Il fait des liens, c'est sa capacité, par exemple le sens de grandeur, de holiness, tu vois, c'est aussi au niveau de l'hippocampe que c'est là. Si je stimule excessivement, il va créer, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'au niveau mémoire, si, et on le voit très bien dans la mémoire des accidents, si je n'ai pas le souvenir, je crée le souvenir. Parce que le cerveau a horreur du vide. Et tout le monde va jurer qu'il ne s'est pas arrêté au feu rouge. Et il n'y avait pas de feu. Au Carrefour, par exemple. Etc. C'est impressionnant. Et on condamne des gens pour ça.
Je vais peut-être poser une bête.
Oui, vas-y.
L'hippocampe, elle est au milieu du cerveau?
Non.
Parce que tu parlais de droite et de gauche, et là je suis un peu pour.
Mais
elle est que d'un côté?
Non, les deux côtés. Il y a deux hippocampes.
Ah, voilà, deux.
Bah, ça, oui, dans chaque lobe temporal.
Tant que je te montre ça, mais il faut que je reconstitue ce cerveau de malheur. C'est toujours compliqué. Voilà. Bon, j'ai pas mis le tronc cérébral et tout, mais voilà. Voilà mon cerveau. Il te regarde. Les lobes temporaux sont là. J'ai deux lobes temporaux. J'ouvre. J'ai deux lobes temporaux à l'intérieur, là. Donc j'ai deux hippocampes, là. Ça va? C'était ça ta question?
Ben oui, je pensais qu'on en avait plus un peu. Il y a quelque chose d'important.
Je peux poser une petite question concernant un schéma page 55 de l'hippocampe. Parce que je l'aime bien, je voulais savoir, j'arrive pas à voir la voix à la voix du cerveau sur le schéma de l'hippocampe.
Mais je ne dis pas encore rien. Ça va? Je vais arriver à ça dans pas longtemps. J'ai juste une chose encore à dire et puis on y arrive. Dans l'Alzheimer, l'hippocampe est le premier à être détruit. Parce qu'il est extrêmement sensible, entre autres aussi aux hormones de stress. Et c'est pour ça que quand on est stressé, on ne se souvient plus de rien. Ou qu'en état de stress, on ne peut rien emmagasiner, rien stocker. Parce qu'il est sensible aux hormones de stress. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce fameux circuit de Pompe. Bon, allez, je vais d'abord répondre à ta question. Alors, ça, on a coupé ici au-dessus le cerveau, la calotte, pour montrer, en fait, l'avant est là, l'arrière est là, l'hippocampe. Et de l'hippocampe, il y a une voie qui s'appelle le fornix, que vous voyez ici. Et le fornix arrive à l'avant au niveau d'une partie de l'hypothalamus qui sont les corps mammilaires, on a vu hier. La salivation. Hein? D'accord? Et donc on a enlevé ça et on l'a mis comme ça. Donc cette partie-là c'est l'avant, cette partie-là c'est l'arrière. Où j'ai l'hippocampe en contact très proche avec les amygdales. Puis le fornix qui est cette voie qui va communiquer avec les corps mammilaires. Et on voit qu'il y a une commissure formicale. Ça, c'est très compliqué à voir. Je vais voir si je n'ai pas une autre image parce que ça vous explique la raison pour laquelle on parle d'hippocampe. C'est un amique. Voilà. À l'hippocampe, mais ça c'est la main. Je ne sais pas si ça va vraiment vous éclairer. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez en fait dans le développement, c'est pas seulement l'hippocampe, hein, vous vous souvenez, il y a aussi le gyrus dentelé, etc., etc. Vous voyez ici en gris, là c'est le gyrus dentelé et le gyrus para-hippocampique est ici et puis ici, là et ça c'est l'hippocampe. Et donc au cours de l'évolution, ici je suis sur le bord externe du cortex et le cortex est invaginé et après au cours de l'évolution, il a, dans la croissance, il a commencé à tourner sur l'humain et à faire ce mouvement-ci. Et donc, vous voyez, vous avez ici le gyrus para-hippocampique, et puis l'hippocampe, et à la fin, le gyrus d'Anclet. Ça va ? Et donc, en fait, ça continue encore, et ça arrive à être comme ici, où finalement, vous avez l'hippocampe là tout en haut, tout ça c'est le gyrus para-hippocampique, et tout au bout, vous avez le gyrus dentatus. Donc, et en fait, c'est quand ils ont coupé comme ça qu'ils ont dit, mais ça ressemble à un hippocampe. Ça va ? Mais donc, c'est vraiment la paroi, le cortex qui a commencé à s'invaginer et puis à se réinvaginer sur l'humain, comme vous le voyez là. Ça va ? Et c'est ça qui donne cette image d'hippocampe. Et dans le temps, on parlait de formation hippocampique parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait différentes parties. Et aujourd'hui, cette formation hippocampique est constituée de plein de gyrus différents. On a le gyrus para-hippocampique, le gyrus entorhinal, le gyrus péririnal, etc. Tout ça, ça constitue la formation hippocampique.
Il est où sur ton schéma, le dentelé ?
Ici, oui. C'est ceci. Et ici, à la fin, il est vraiment tout au bout.
Okay.
Et c'est pour ça que quand tu regardes... Tu vois le gyrus para-hippocampique, le dentelé et l'hippocampe. C'est vraiment bizarre, quoi. Parce que tout a été invaginé comme ça. Bien. Alors, il est quelle heure, en fait ?
11h.
Ça va si je termine ou bien vous voulez d'abord la pause ? La pause ?
Ben non, terminons, on l'a fait. Non,
non, c'est trop long.
D'accord.
On va faire la pause parce que j'ai encore. Sinon, je vois.